L'explosion des inégalités américaines depuis les années 1970-1980. Des années 1950 aux années 1970, les États-Unis connaissent la phase la moins inégalitaire de leur histoire. Le décile supérieur de la hiérarchie des revenus détient de l'ordre de 30%-35% du revenu national américain, soit approximativement le même niveau qu'en France aujourd'hui. C'est l'Amérique qu'on aime, dont parle Paul Krugman avec nostalgie, l'Amérique de son enfance. Dans les années 1960, à l'époque de la série Mad Men et du général de Gaulle, les États-Unis étaient de fait moins inégalitaires que la France, où la part du décile supérieur avait fortement progressé et dépassé nettement les 35%, tout du moins pour ceux qui avaient la peau blanche. Depuis les années 1970-1980, on assiste à une explosion sans précédent des inégalités de revenus aux États-Unis. La part du décile supérieur est progressivement passée d'environ 30-35% du revenu national dans les années 1970 à environ 45-50% dans les années 2000-2010, soit une hausse de près de 15 points de revenu national américain. L'allure de la courbe est assez impressionnante. Et il est naturel de se demander jusqu'où une telle évolution peut aller. Par exemple, si les choses continuent au même rythme, la part du décile supérieur dépassera les 60% du revenu national d'ici à 2030. Plusieurs points méritent d'être précisés dès maintenant concernant cette évolution. Tout d'abord, rappelons que les séries représentées sur le graphique 8.5, de même que l'ensemble des séries de la World Top Incomes Database, prennent uniquement en compte les revenus figurant dans les déclarations de revenus, et en particulier ne cherchent pas à corriger la sous-déclaration des revenus du capital pour des raisons légales ou extra-légales. Compte tenu de l'écart croissant entre la masse des revenus du capital, en particulier dividendes et intérêts, enregistrés dans les comptes nationaux américains et celles observées dans les déclarations de revenus et compte tenu aussi du développement rapide des paradis fiscaux, flux que les comptes nationaux eux-mêmes ne prennent pour une large part pas en compte, il est probable que le graphique 8.5 sous-estime la hausse de la part du décile supérieur qui a véritablement eu lieu. En confrontant les différentes sources disponibles, on peut estimer que la part du décile supérieur a sans doute légèrement dépassé les 50% du revenu national américain à la veille de la crise financière de 2008, puis de nouveau au début des années 2010. Ensuite, on notera que l'euphorie boursière et les plus-values n'expliquent qu'une part limitée de la hausse structurelle de la part du décile supérieur au cours des 30-40 dernières années. Certes, les plus-values ont atteint aux États-Unis des niveaux inédits lors de la bulle Internet en 2000, puis de nouveau en 2007. Dans les deux cas, les plus-values représentent à elles seules de l'ordre de 5 points de revenu national supplémentaire pour le décile supérieur, ce qui est énorme. Le précédent record, qui datait de l'année 1928, à la veille du krach boursier de 1929, était d'environ 3 points de revenu national. Mais de tels niveaux ne sont pas tenables très longtemps, comme le montrent les très fortes variations d'une année sur l'autre observées sur le graphique 8.5. Pour finir, les incessants mouvements de court terme des plus-values et des marchés boursiers ajoutent beaucoup de volatilité à l'évolution de la part du décile supérieur et contribuent sans nul doute à la volatilité de l'économie américaine dans son ensemble, mais ne contribuent guère à la hausse structurelle des inégalités. Si l'on retire purement et simplement les plus-values des revenus, ce qui n'est pas satisfaisant non plus compte tenu de l'importance prise aux États-Unis par cette forme de rémunération, alors on constate que la hausse de la part du décile supérieur est presque aussi forte. Elle passe d'environ 32% dans les années 1970 à plus de 46% en 2010, soit une hausse de 14 points de revenu national. Les plus-values oscillaient autour de 1-2 points de revenu national supplémentaire pour le décile supérieur dans les années 1970 et elles oscillent autour de 2-3 points dans les années 2000-2010, hors années exceptionnellement bonnes ou particulièrement mauvaises. La hausse structurelle est donc de l'ordre de 1 point. Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas grand-chose par comparaison à la hausse de 14 points de revenu national de la part du décile supérieur hors plus-value. Le fait d'examiner les évolutions sans les plus-values permet en outre de mieux identifier le caractère structurel de la hausse des inégalités américaines. De fait, de la fin des années 1970 au début des années 2010, la hausse de la part du décile supérieur, hors plus-value, apparaît relativement régulière et continue. Elle passe la barre des 35% dans les années 1980, puis celle des 40% dans les années 1990, et enfin celle des 45% dans les années 2000. Il est particulièrement plus frappant de constater que le niveau atteint en 2010, soit plus de 46% du revenu national américain pour le décile supérieur, hors plus-value, est d'ores et déjà significativement plus élevé que le niveau atteint en 2007 à la veille de la crise financière. Les premières données dont nous disposons pour les années 2011-2012 laissent à penser que la hausse se poursuit actuellement. Il s'agit là d'un point essentiel. Ces faits démontrent tout à fait clairement qu'il ne faut pas compter sur la crise financière en tant que telle pour mettre un terme à la hausse structurelle des inégalités américaines. Certes, dans l'immédiat, un krach boursier conduit à ralentir la hausse des inégalités, de même qu'un boom tend à l'accélérer. Les années 2008-2009, au lendemain de la faillite de Lehman Brothers, de même que les années 2001-2002, juste après l'éclatement de la première bulle Internet, ne sont évidemment pas des années fastes pour réaliser des plus-values boursières. Sans surprise, les plus-values s'effondrent pendant ces années-là. Mais ces mouvements de court terme ne changent rien à la tendance longue, qui obéit à d'autres forces dont il nous faudra comprendre la logique. Pour aller plus loin dans notre compréhension du phénomène, il est utile de décomposer le décile supérieur de la hiérarchie des revenus en trois groupes. Les 1% les plus riches, les 4% suivants et les 5% suivants, voire graphique 8.6. On constate que l'essentiel de la hausse provient du groupe des 1%, dont la part dans le revenu national est passée d'environ 9% dans les années 1970 à environ 20% dans les années 2000-2010, avec de fortes variations dues aux plus-values, soit une hausse de l'ordre de 11 points. Le groupe des 5%, dont les revenus annuels s'échelonnent de 108 000 dollars à 150 000 dollars par foyer en 2010, ainsi que le groupe des 4%, dont les revenus s'échelonnent de 150 000 dollars à 352 000 dollars, ont certes également connu des hausses substantielles. La part du premier dans le revenu national américain est passée de 11% à 12%, soit une hausse de 1 point, et celle du second est passée de 13% à 16%, soit une hausse de 3 points. Par définition, cela signifie que ces groupes sociaux ont connu depuis les années 1970-1980 des hausses de revenus sensiblement supérieures à la croissance moyenne de l'économie américaine, ce qui n'est pas négligeable. On trouve par exemple dans ces groupes les économistes universitaires américains qui ont souvent tendance à considérer que l'économie des États-Unis fonctionne plutôt bien, et en particulier qu'elle récompense le talent et le mérite avec justesse et précision. Voici une réaction bien humaine et compréhensible. La vérité, cependant, est que les groupes sociaux situés au-dessus d'eux s'en sont beaucoup mieux sortis. Sur les 15 points de revenu national supplémentaires qui ont été absorbés par le décile supérieur, environ 11 points, près des trois quarts, l'ont été par les 1%, c'est-à-dire les revenus annuels supérieurs à 352 000 dollars en 2010, dont environ la moitié par les 0,1%, les revenus au-delà de 1,5 million de dollars. La hausse des inégalités a-t-elle causé la crise financière ? Nous venons de voir que la crise financière en tant que telle ne semble pas avoir d'impact sur la hausse structurelle des inégalités. Qu'en est-il de la causalité inverse? Est-il possible que la hausse des inégalités américaines ait contribué au déclenchement de la crise financière de 2008? Compte tenu du fait que la part du décile supérieur dans le revenu national américain a connu deux sommets absolus au cours du siècle écoulé, l'un en 1928, à la veille de la crise de 1929, et le second en 2007, à la veille de la crise de 2008. Il est difficile de ne pas se poser la question. De mon point de vue, il ne fait aucun doute que la hausse des inégalités a contribué à fragiliser le système financier américain. Pour une raison simple, la hausse des inégalités a eu pour conséquence une quasi-stagnation du pouvoir d'achat des classes populaires et moyennes aux États-Unis, ce qui n'a pu qu'accroître la tendance à un endettement croissant des ménages modestes, d'autant plus que, dans le même temps, des crédits de plus en plus faciles et dérégulés leur étaient proposés par des banques et intermédiaires financiers peu scrupuleux et désireux de trouver de bons rendements pour l'énorme épargne financière injectée dans le système par les catégories aisées. À l'appui de cette thèse, il est important d'insister sur l'ampleur considérable du transfert de revenu national américain, de l'ordre de 15 points de revenu national, qui a eu lieu entre les 90% les plus pauvres et les 10% plus riches depuis les années 1970. Concrètement, si l'on cumule la croissance totale de l'économie américaine au cours des 30 années précédant la crise, c'est-à-dire de 1977 à 2007, alors on constate que les 10% les plus riches se sont appropriés les 3/4 de cette croissance. À eux seuls, les 1% les plus riches ont absorbé près de 60% de la croissance totale du revenu national américain sur cette période. Pour les 90% restants, le taux de croissance du revenu moyen a été ainsi réduit à moins de 0,5% par an. Rappelons que tous ces chiffres concernent la répartition des revenus primaires, avant impôts et transferts. Il est difficile d'imaginer une économie, une société, qui fonctionne éternellement avec une divergence aussi extrême entre groupes sociaux. Évidemment, si la hausse des inégalités s'était accompagnée d'une croissance exceptionnellement forte pour l'économie américaine, il en irait tout à fait différemment. Cela n'a malheureusement pas été le cas. La croissance a été plutôt moins forte qu'au cours des décennies précédentes, si bien que la hausse des inégalités a conduit à une quasi-stagnation des revenus bas et moyens. On peut également noter que ce transfert interne entre groupes sociaux, de l'ordre de 15 points de revenu national américain, est près de 4 fois plus important que l'imposant déficit commercial américain pendant les années 2000, de l'ordre de 4 points de revenu national des États-Unis. La comparaison est intéressante car cet énorme déficit commercial qui a notamment pour contrepartie les excédents chinois, japonais et allemands a souvent été décrit comme l'un des éléments clés des déséquilibres internationaux, global imbalances, qui aurait contribué à déstabiliser le système financier américain et mondial dans les années menant à la crise de 2008. Cela est tout à fait possible. Mais il est important de prendre conscience du fait que les déséquilibres internes à la société américaine sont 4 fois plus importants que les déséquilibres internationaux. Cela suggère que certaines solutions sont peut-être davantage à chercher aux États-Unis qu'en Chine ou dans les autres pays. Cela étant posé, il serait tout à fait excessif de faire de la hausse des inégalités la cause unique, ou même principale, de la crise financière de 2008, et plus généralement de l'instabilité chronique du système financier international. À mon sens, un facteur d'instabilité peut être plus important encore que la montée des inégalités américaines est la hausse structurelle du rapport capital-revenu, notamment en Europe, accompagnée de l'énorme progression des positions financières internationales brutes. La montée des supersalaires. Revenons aux causes de la hausse des inégalités aux États-Unis. Elle s'explique pour une large part par la montée sans précédent de l'inégalité des salaires et en particulier par l'émergence de rémunérations extrêmement élevées au sommet de la hiérarchie des salaires, notamment parmi les cadres dirigeants des grandes entreprises. Voir graphique 8.7-8.8. De façon générale, l'inégalité des salaires américains a connu des transformations importantes au cours du siècle écoulé, avec en particulier un élargissement de la hiérarchie au cours des années 1920, une relative stabilité pendant les années 1930, puis une très forte compression pendant les années de la Seconde Guerre mondiale. Cette phase de grande compression de la hiérarchie salariale américaine a été amplement étudiée. Elle met notamment en jeu le National War Labor Board, autorité qui de 1941 à 1945 doit approuver les hausses de salaire aux États-Unis, et qui généralement n'accorde les autorisations que pour les plus bas salaires. En particulier, les salaires des cadres dirigeants sont systématiquement gelés en termes nominaux et ne seront que très partiellement relevés à la fin de la guerre. Pendant les années 1950-1960, l'inégalité des salaires se stabilise à un niveau relativement faible aux États-Unis, plus faible par exemple qu'en France, la part du décile supérieur de la hiérarchie des salaires est d'environ 25% de la masse salariale et la part du centile supérieur autour de 5-6% de la masse salariale. Puis, à partir du milieu des années 1970 et tout au long des années 1980-2010, les 10% des salaires les plus élevés et plus encore les 1% les plus élevés se mettent à croître structurellement plus vite que la moyenne des salaires. Au total, la part du décile supérieur de la hiérarchie des salaires passe de 25% à 35% de la masse salariale, et cette hausse de 10 points explique approximativement les deux tiers de la hausse de la part du décile supérieur de la hiérarchie des revenus dans le revenu national. Plusieurs points doivent être précisés. Tout d'abord, cette progression inédite des inégalités salariales ne semble pas avoir été compensée par une quelconque augmentation de la mobilité salariale à l'intérieur des carrières individuelles. Elle n'a pas davantage été compensée par une augmentation de la mobilité d'une génération sur l'autre, bien au contraire. Ceci est un point essentiel, dans la mesure où cet argument est souvent mentionné pour relativiser l'importance de la montée des inégalités. De fait, si chacun passe une partie de sa vie avec un très haut salaire, par exemple, si chacun passe une année dans le centile supérieur de la hiérarchie, une hausse du niveau des très hauts salaires n'implique pas nécessairement que les inégalités face au travail, mesurées sur l'ensemble de la vie, aient véritablement augmenté. L'argument de la mobilité, classique, est d'autant plus fort qu'il est souvent impossible à vérifier. Mais, en l'occurrence, les données administratives et fiscales américaines permettent de mesurer l'évolution de l'inégalité des salaires en tenant compte de la mobilité, c'est-à-dire en calculant les salaires moyens obtenus au niveau individuel sur de longues durées, 10, 20, 30 ans. On constate alors que la hausse des inégalités salariales est identique dans tous les cas, quelle que soit la durée de la période de référence choisie. Autrement dit, ni les serveurs de McDonald's, ni les ouvriers de Détroit, pas plus que les enseignants de Chicago ou les cadres moyens ou même supérieurs de Californie, ne passent une année de leur vie, chacun à tour de rôle, comme cadre dirigeant des grandes sociétés américaines. On aurait pu s'en douter, mais c'est toujours mieux de pouvoir le mesurer de façon systématique. La cohabitation du centile supérieur. Par ailleurs, le fait que la montée à des niveaux sans précédent des inégalités salariales explique la plus grande partie de la hausse des inégalités de revenus américaines ne signifie pas que les revenus du capital n'aient joué aucun rôle. Il est important de ne pas tomber dans une vision excessive selon laquelle les revenus du capital auraient disparu des sommets de la hiérarchie sociale américaine. De fait, la très forte inégalité des revenus du capital et leur progression depuis les années 1970 explique environ un tiers de la montée des inégalités de revenus aux États-Unis, ce qui est loin d'être négligeable. Il faut également insister sur le fait qu'en Amérique, comme en France et en Europe, aujourd'hui comme hier, les revenus du capital ont toujours tendance à prendre l'ascendant sur les revenus du travail lorsque l'on gravit les échelons de la hiérarchie salariale. Les différences dans le temps et l'espace sont des différences de degré. Elles sont importantes, mais elles ne changent pas ce principe général. Comme l'ont bien noté Wolf et Zacharias, le centile supérieur se caractérise toujours par une cohabitation entre plusieurs groupes sociaux, les très hauts revenus du capital et les très hauts revenus du travail, plutôt que par un remplacement des premiers par les seconds. En l'occurrence, comme en France, mais de façon encore plus prononcée, la différence est qu'il faut aujourd'hui monter beaucoup plus haut qu'hier pour que les revenus du capital prennent le dessus. En 1929, les revenus du capital, essentiellement les dividendes et les plus-values, constituaient la source la plus importante de ressources pour les 1% des revenus les plus élevés dans leur ensemble. Voir graphique 8.9. En 2007, il faut monter au niveau des 0,1% des revenus plus élevés pour que ce soit le cas, voir graphique 8.10. Encore faut-il préciser que cela tient au fait que nous incluons les plus-values dans les revenus du capital. Sans les plus-values, les salaires apparaîtraient comme la source principale de revenus jusqu'au niveau des 0,01% des revenus les plus élevés. Le dernier point qui mérite d'être précisé, et c'est peut-être le plus important, et que la montée des très hauts revenus et des très hauts salaires reflète avant tout l'avènement des supercadres, c'est-à-dire d'un groupe de cadres dirigeants des grandes entreprises parvenant à obtenir des niveaux de rémunération extrêmement élevés, inédits dans l'histoire. si l'on se contente de prendre en compte les 5 rémunérations les plus élevées de chaque société cotée, qui sont généralement les seules rémunérations qui doivent faire l'objet d'une information publique dans les rapports et les comptes de ces sociétés, on se retrouve avec la conclusion paradoxale selon laquelle les dirigeants des sociétés ne sont pas suffisamment nombreux pour expliquer la montée des très hauts revenus américains, et l'on ne sait plus bien comment expliquer les évolutions observées dans les déclarations de revenus. Mais le fait est que dans beaucoup de grandes entreprises américaines, il existe bien plus de 5 cadres dont la rémunération les place au sein des 1% des revenus les plus élevés au niveau national, $352 000 en 2010, ou même au sein des 0,1% les plus élevés, $1,5 million en 2010. Des recherches récentes, fondées sur l'appariement des fichiers de déclaration de revenus et des fichiers de déclaration de salaire des sociétés, permettent de constater que la grande majorité des 0,1% des revenus les plus élevés, entre 60 et 70% suivant les définitions adoptées, correspond pendant les années 2000 à des cadres dirigeants. Par comparaison, les sportifs, acteurs, artistes, tous domaines confondus, représentent au total moins de 5% des effectifs. En ce sens, les nouvelles inégalités américaines correspondent bien plus à l'avènement des supercadres qu'à une société de superstars. Il est également intéressant de noter que les métiers de la finance, qu'il s'agisse des cadres dirigeants des banques et autres institutions financières ou des traders opérant sur les marchés financiers, prennent environ 2 fois plus de place au sein des très hauts revenus que dans l'économie dans son ensemble, environ 20% des 0,1% des revenus les plus élevés contre moins de 10% du PIB. Il n'en reste pas moins que 80% des plus hauts revenus ne sont pas dans la finance et que la montée des très hauts revenus américains s'explique avant tout par l'explosion des rémunérations des cadres dirigeants des grandes sociétés, que ces dernières soient dans les secteurs financiers ou non financiers. Les revenus du capital sont dominants au sein des 0,1% des revenus les plus élevés aux États-Unis en 2007 et non au sein des 1% des revenus les plus élevés comme en 1929. Précisons enfin qu'en accord avec les règles fiscales américaines et aussi avec la logique économique, nous avons inclus dans les salaires l'ensemble des primes et bonus versés aux cadres dirigeants ainsi que la valeur d'exercice des stock options, forme de rémunération qui a joué un rôle important dans la montée des inégalités salariales. Concrètement, si un cadre dirigeant se voit donner la possibilité d'acheter pour $100 des actions de son entreprise, et si le cours des actions est de $200 au moment où il exerce son option, alors la différence entre les deux cours, soit $100, sera traitée comme un élément de salaire au cours de l'année d'exercice. Si le cadre dirigeant vend ensuite ses actions à un prix plus élevé encore, mettons $250, alors la différence, soit $50, sera enregistrée comme une plus-value. La très forte volatilité des primes, bonus et valeurs d'exercice des options explique les fluctuations importantes de la part des hauts salaires dans les années 2000-2010.